France Inter.
Merci beaucoup Lucie Loconi. Bien sûr, vous serez de retour d'ici une heure pour un tout nouveau point sur l'information. Ce soir, eh bien, le moment est venu. Nous serons en compagnie des meilleurs des guides, Damon Albarn lui-même et son camarade Jamie Hewlett, pour évoquer le voyage de Gorillaz en Inde. Oui, ils nous ont rendu visite, hein, les créateurs de ce groupe imaginaire et protéiforme Gorillaz, qui sait nous entraîner vers des paysages et des histoires inattendues dans lesquelles le familier et l'insolite se mêlent d'une façon très naturelle. La preuve.
Sleep well with night, and the palace.
Une association très heureuse, celle des Sparks, un duo de frères en activité depuis plus d'un demi-siècle à Serra, avec Damon Albarn, lui aussi ça fait longtemps qu'on le connaît, Damon Albarn qui a invité les frères Ron et Russell Mail à créer, donc les Sparks, à créer avec lui cette chanson The Happy Dictator pour le nouvel album de Gorillaz, le groupe imaginaire et protéiforme qu'il a imaginé au tout début du nouveau siècle. C'était un soir de joyeux délire avec son pote dessinateur et graphiste Jamie Hewlett. Comme je l'ai rappelé dans l'émission de lundi, la première d'une semaine entièrement dévolue à Gorillaz, Damon Albarn a sollicité et obtenu depuis les débuts de cette aventure, à l'aventure de Gorillaz en 2001, les collaborations de certaines des voix les plus marquantes, les plus originales souvent de ces 60 dernières années, au hasard assez vaste, hein, ça va de Ibrahim Ferrer qui a été la voix de Buena Vista Social Club à Lou Reed. Alors il a aussi essuyé des refus, aussi hein, comme Tom Waits, que l'idée qu'on entende sa voix dans un album de Gorillaz n'a pas du tout amusé. Mais enfin, avec les frères Ron et Russell Mail, les Sparks, ça a été tout à fait différent. Damon, qui avait pour l'occasion, c'était il y a deux ans et demi, sa casquette de chanteur du groupe Blur, qu'il a fondé, et Ron et Russell Mail, les Sparks, se sont donc croisés lors d'un festival en 2023. Russell a carrément laissé, et c'est historique, ses coordonnées sur un post-it sur la porte de la loge de Damon pour lui suggérer une collaboration éventuelle pour un éventuel album de Gorillaz à venir. Alors vous pouvez imaginer, Damon, dès qu'il en a eu l'occasion, eh bien, a dit banco. Et c'est ce qui a donné ce titre, The Happy Dictator, le joyeux dictateur, un titre dont les paroles ont été inspirées, enfin, et puis aussi l'état d'esprit, par un voyage que Damon a fait, je sais pas exactement quand c'était, au Turkménistan avec sa fille Messi. Alors le Turkménistan, c'est un pays dont on ne parle pas fréquemment, c'est le cas de le dire, c'est un pays qui est situé de l'autre côté de la mer Caspienne, face à l'Azerbaïdjan. Il occupe à peu près les trois quarts de la superficie de l'Afghanistan, avec lequel d'ailleurs il partage une longue frontière au sud, tout comme avec l'Iran d'ailleurs. Cependant, le Turkménistan est 5 fois moins peuplé que l'Afghanistan. Il fournit, c'est intéressant à souligner, une grande partie de son gaz naturel à la Chine, pays auquel un oléoduc relie le Turkménistan. Bref, naguère, il y avait au Turkménistan un dictateur du nom de Saparmurat Niyazov, qui était déjà en place quand l'Union soviétique régnait. Il avait été le premier secrétaire du Parti communiste de la République du Turkménistan, et il avait accaparé pour lui et son clan déjà tous les pouvoirs. Et il signait, ce Saparmurat Niyazov, des décrets assez loufoques. Enfin, j'imagine que ça faisait pas rire tout le monde dans son pays, comme celui justement auquel font allusion Damon Albarn et les Sparks. Oui, Niyazov avait en effet décidé que sous son autorité, les citoyens du Turkménistan avaient pour devoir de n'avoir que des pensées heureuses et de chasser de leur esprit toutes les nouvelles négatives. Alors chez nous, j'ai l'impression que c'est plutôt des coachs en développement personnel qui peuvent faire ce genre de suggestions. Bref, j'ai eu la grande chance de rencontrer dans un studio de Radio France, c'était il y a moins d'une semaine, Damon Albarn et Jamie Hewlett. C'était au milieu de la matinée, ils étaient plutôt en forme. Alors, ils ne sont pas toujours faciles à suivre, ils ne sont pas toujours prévisibles, ce qui est évidemment une qualité, à mon sens, dans une période, la nôtre, où la spontanéité est devenue très rare dans les entretiens médiatisés. Bref, on va écouter ce soir la première partie de cet entretien, il y en aura deux, hein, la seconde ce sera pour demain, et dans l'émission de demain, il faut absolument que vous soyez au rendez-vous, vous pourrez entendre, c'est une grande chance, Damon chanter seul pour nous. Il s'est accompagné au piano à queue dans un studio de Radio France, il a chanté deux très belles chansons du nouvel album de Gorillaz, The Mountain, qui va paraître après-demain, album sur la genèse duquel eh bien Damon et Jamie se sont étendus, un album qui a été marqué par le deuil, puisque pendant son élaboration, l'un et l'autre ont perdu leur père. Jamie et Damon, bonjour, je suis très heureux de pouvoir avoir cette conversation avec vous. Alors, voici comment je vais commencer. J'ai lu que l'enregistrement de cet album, The Mountain, avait été très marqué par le chagrin et par le deuil. Donc je m'attendais à quelque chose d'assez sombre, enfin en tout cas d'introspectif. Au lieu de ça, j'ai écouté l'album hier dans son intégralité, dans l'ordre, et j'ai ressenti autre chose. J'ai ressenti une sensation plutôt de joie voire d'exaltation. C'est un peu comme si je suivais un rituel assez euphorique, une cérémonie de consolation. Et j'ai eu l'impression que l'album était en fait plutôt centré sur les différentes étapes du deuil et sur la manière de le surmonter. Est-ce que c'est ça, au fond ?
Oui. Et il ne s'y noie pas, pas du tout. C'est simplement... Je ne sais pas. Jamie et moi, on se considère comme purement créatifs. On ne se dispute pas. Quoi que ce soit comme ça. On est simplement créatifs. Ça ne serait pas très utile, d'ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des êtres humains avec des responsabilités, ce qu'on est.
Jamie ?
L'accent est mis sur l'aspect créatif. Oui, donc comment gère-t-on le deuil en tant qu'artiste ?
Ce
n'est pas quelque chose que l'on attend. Bon, beaucoup de gens, beaucoup d'artistes l'ont recherché, le deuil, et l'ont finalement trouvé. Mais là, c'était pas quelque chose d'autodestructeur. C'était tout ce qui accompagne la perte d'un père, et nous les avons perdus à peu près en même temps. C'est lourd.
Oui, c'est vrai, mais on a un sentiment très différent, Damon, quand on t'entend chanter ces chansons comme tu viens de le faire au piano à queue. C'est beaucoup plus grave.
Et qu'est-ce que ça donne comme ça, comme son? Parce que je n'ai jamais vraiment entendu. Tu vois ce que je veux dire? Je joue habituellement avec un groupe et je suis dans l'univers des personnages.
Écoute, je dirais pas que tu chantes comme Leonard Cohen, mais il y a quand même quelque chose.
Je chante pas aussi mal. Je rigole, hein, je l'adore. Allez, non, je l'adore.
Oui, ce que je veux dire, c'est que ça transmet pas le même sentiment. Dans l'album, il y a de la joie, il y a une chorale, il y a beaucoup d'effets sonores, des enregistrements que vous avez fait sur le terrain en Inde. On a l'impression de participer à une espèce de manifestation très joyeuse.
On a beaucoup réfléchi à la réalisation de cet album. Il y avait donc un point de départ, mais bien sûr, nous avons passé beaucoup de temps à réfléchir à ce projet, à nous assurer qu'il reste un sentiment d'optimisme à la fin de l'album. Car on considère peut-être la perspective indienne de la mort, par opposition à la perspective occidentale, qui est en quelque chose un grand point final et c'est tout.
Mais comment vous la décririez, cette perspective ? Parce qu'au fond, il y a peut-être plusieurs façons de décrire la manière indienne de faire son deuil.
D'un côté, ils pleurent la mort d'un membre de leur famille. Mais d'un autre côté, ils célèbrent le retour, quelque part, de ce membre de la famille, même s'ils ne le reverront plus jamais. Il y a une chance sur 1 million qu'ils reprennent contact avec cette personne. Mais ils célèbrent le fait que c'est un recommencement. C'est donc une expérience étrange quand on est en Inde et qu'on vient de vivre un deuil. Et puis tout vous encourage à vous vider de vous-même.
Damon ?
Moi, j'allais utiliser le mot divorce, mais c'est trop catholique, hein, pour l'Inde. La religion au nord, c'est une chose très intéressante. Ayant passé beaucoup de temps en Islande, à Noël, j'étais allé à la cathédrale de Reykjavik et j'ai écouté un orchestre de trompette. Et c'était tout simplement magique, tellement scandinave, avec un ciel lumineux et un froid glacial. Il y avait là une clarté qui m'a beaucoup impressionné. Mais... Désolé, tu vois ce qui se passe quand tu voyages sur la planète Terre. Tout change de couleur. Les digressions sont belles.
Alors c'est marrant que tu mentionnes l'Islande, parce que en fait, bon, je suis allé en Islande il y a une dizaine d'années, et l'Islande et l'Inde, alors franchement, on ne peut pas trouver plus opposé. En Islande, je ne sais pas, il n'y a personne, c'est absolument vide, et en Inde, tu tombes sur des foules absolument partout. Donc la spiritualité n'est pas la même si tu es comme ça au milieu des gens.
Il y a très peu de chances de croiser une vache dans les rues de Reykjavik. Alors qu'il y a très peu de chances de ne pas croiser de vache en Inde.
Il y a un
Infusion of animals. Merveilleuse profusion d'animaux en Inde. Ils sont partout. Et si tu en parles à quelqu'un, il te répondra que les animaux ont autant de droits d'être là que nous. Alors pourquoi les mettre de côté ?
Damon ?
Moi, je pense que, d'une manière très simpliste, c'est encore un pays païen. C'est notre terme, celui qu'on utilise pour cela. L'animisme, oui. L'animisme qui est au cœur de l'expression de la culture. Ce n'est même pas un sort, c'est juste si tu t'y plonges et que tu n'y penses pas trop. Et tu es censé vider ton esprit.
That is death.
C'est la mort,
ça. Yeah, it's... India's a bit like a Jodorowsky.
L'Inde, ça ressemble un peu à un film de Jodorowsky. T'as un animal dans chaque scène.
Top down on your radio, DA in the place you show.
gone, they ain't a place you go. Suleiman ain't a place you know.
Une hybridation inattendue, hein, c'est fréquent chez Gorillaz, entre deux voix que rien, à première vue, ne destinait à se rapprocher, celle du chanteur syrien Omar Suleiman, exilé en Turquie hein, depuis une quinzaine d'années, et d'un rappeur new-yorkais qu'on a longtemps connu sous le nom de Mos Def, mais qui a officiellement changé d'état civil en 2011, puisque maintenant on l'appelle Yasin Bey. La chanson s'appelle Damascus, hein, comme la ville de Damas en Syrie, et elle figurera dans le nouvel album de Gorillaz, The Mountain, à paraître après-demain. Album au sujet duquel j'ai eu la chance de m'entretenir avec Damon Albarn et Jamie Hewlett. Alors Jamie, d'ailleurs, je le souligne dès maintenant, c'est important pour la compréhension de l'entretien, a été le premier des deux à se rendre en Inde, et c'était dans des circonstances douloureuses, puisque alors qu'elle se trouvait dans la région du Rajasthan, la mère de la compagne de Jamie avait eu là-bas un grave accident, et le couple a dû se rendre sur place pour lui prêter assistance. Alors, comme l'album s'appelle The Mountain, il y a évidemment beaucoup de références à la montagne, enfin, je veux dire, même dans pratiquement toutes les chansons. Et je me demandais, est-ce que ça évoquait pour vous la montagne? Est-ce que c'est une métaphore de la vie terrestre? Je sais pas, quelque chose qu'il faut gravir et conquérir, enfin, si on est croyant, pour accéder à un niveau supérieur. Est-ce que c'est ça que vous diriez l'un et l'autre?
Well, I mean...
It's kind of open.
C'est assez ouvert à l'interprétation. Nous n'avons pas d'interprétation définitive. J'ai ma propre interprétation, mais je pense que nous avons laissé les choses ouvertes. La montagne, c'est quelque chose que l'on escalade pour atteindre un stade et aller au-delà de ce stade. Oui, ça me semble un peu plus raisonnable. En tant que totem profond du subconscient que la croix.
Et qu'est-ce que tu veux dire au juste?
What do I mean?
Ce que je veux dire.
I mean, it's more liberating.
Je veux dire qu'il est plus libérateur de se figurer un triangle que de se figurer une croix.
Yeah. And then that goes on.
Et puis après ça continue.
Complicated as you go on with
ça devient de plus en plus complexe à mesure que tu avances dans cette analogie. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que la montagne remplit le triangle. On le trouve partout en Inde, n'est-ce pas? Ça vient de la fourche qui est triple. Le nombre, je veux dire, c'est juste... Si tu aimes les chiffres et les motifs et les belles couleurs... Toutes sortes de choses fascinantes à la fois, chaque jour. Alors l'Inde, c'est un pays formidable à visiter. C'est impossible de ne pas en revenir sans avoir appris des choses vraiment importantes.
Bah oui, bien sûr, j'allais vous poser des questions sur ce voyage en Inde, évidemment. Jamie, parmi vous deux, vous êtes le premier à avoir fait le voyage en Inde. Et d'après ce que j'ai compris, c'était dans des circonstances très difficiles et même tragiques. Qu'est-ce que l'Inde a représenté pour vous à cette période de votre vie? Et est-ce que ça vous a aidé à réparer votre relation avec Damon? Parce que d'après ce que j'ai compris...
Jamie nous a offert les bagues.
Ah oui, et ben alors le divorce est terminé. Donc.
Je ne pense pas que nous ayons jamais divorcé. Ne nous parlions tout simplement pas beaucoup, pas assez. On se connaît depuis 35 ans, même plus, donc il y a forcément des périodes où on ne se parle pas. Sinon, c'est trop.
Oui, je reprends ma question. Ce que je voulais te demander, c'est qu'est-ce que l'Inde a représenté pour toi dans cette période de ta vie où justement tu devais te réconcilier avec Damon d'une manière ou d'une autre?
Nous nous sommes réconciliés il y a bien longtemps. Et ce n'est pas comme si nous étions soudainement réconciliés et que nous avions pris l'avion pour l'Inde. Nous ne sommes jamais vraiment disputés. Oui, je ne suis pas sûr d'être d'accord avec cette histoire à notre propre propos. Non, on a traversé une expérience, c'est mon pote. J'étais déjà allé en Inde, une fois, et j'ai dû y retourner. Parce que mon épouse était là-bas et parce que sa mère était très malade. Je suis donc allé la rejoindre pour l'aider à faire face à la situation qui était assez traumatisante. Et nous sommes restés longtemps à Jaipur. Une des choses qui m'a vraiment aidé à surmonter cette épreuve, c'est l'Inde. Le fait d'être en Inde, les gens qui nous entouraient, et toute cette culture. Ça a joué un rôle dans notre capacité à surmonter cette épreuve. Et à mon retour, j'ai dit à Jamie que nous devions partir ensemble en Inde.
Plutôt Damon, hein?
Pour faire quelque chose. C'est l'un des seuls endroits sur Terre où il n'était jamais allé. Il est allé à peu près partout. Il attendait le moment propice pour y aller. Et à ce moment-là, il semblait tout à fait logique que nous y allions ensemble et que nous y vivions cette expérience. Entre ces deux voyages, et nous avons perdu nos pères, c'est alors que ce récit a commencé à s'imposer à nous. Voilà, c'est un sujet qui concerne chaque personne sur cette planète. C'est donc un sujet intéressant à aborder. Comment voulons-nous vivre le deuil ?
On parle de deuil, et bien justement, voici un nouveau titre de Gorillaz, fruit d'un travail sur un enregistrement ancien, réalisé avec le regretté Tony Allen, qui fut un grand batteur et percussionniste du Nigeria, dont Damon fut très proche. Cette chanson s'appelle « The Hardest Thing ».
Oya, Edide, Erori. Oya, Edide, Erori. Oya. Edide, erori.
Very Good Trip sur France Inter.
Your father's job, they suspend the clock. can't take this anymore. So why are you trying to break me? I don't know if I can stay on board. You know the hardest thing is to say goodbye to someone you love. That's the hardest thing.
I'm not your enemy. Your legacy frightens me. Will I keep it gold or will it spoil? Before I get the chance to grow.
You know the hardest thing.
Orange County, une chanson très légère, hein, comme aérienne, signée Gorillaz, sur un sujet triste, hein, le deuil, où il est dit « the hardest thing », la chose la plus difficile, c'est de dire au revoir à quelqu'un qu'on aime. Ça peut être le deuil d'une relation amoureuse aussi, bien sûr. Une nouvelle chanson de Gorillaz qui réunit, c'est audacieux, mais enfin c'est le principe, un DJ argentin, Bizarrap, une jeune musicienne américaine entre folk, musique classique et jazz, Kara Jackson, et puis, vous l'avez entendu au sitar, la grande musicienne indienne Anushka Shankar, vous en parlait dans l'émission d'hier. Alors j'ai interrogé Damon sur son lien profond avec l'Inde. J'étais curieux de savoir comment tout ça s'était tissé. Et toi Damon, alors qu'est-ce qui t'a convaincu de la nécessité de faire ce voyage en Inde? Est-ce que c'est d'ailleurs une perspective que tu avais en tête depuis un certain temps? Et si c'est le cas justement, alors qu'est-ce qui t'a poussé à prendre ces décisions-là à ce moment-là? Et dans quelle mesure d'ailleurs est-ce que les arguments de Jamie ont pu peser dans ta décision?
J'ai toujours
cherché
une vraie raison d'aller en Inde toute ma vie.
Et donc tu n'en avais pas trouvé avant?
Je n'en avais pas trouvé une qui soit suffisamment forte pour que j'abandonne toutes les autres choses que je faisais. J'étais en quelque sorte complètement absorbé par le Mali, tu sais, et toute la région de l'Afrique. Je me suis en quelque sorte intéressé à cette spiritualité, même si mes parents m'avaient élevé en me donnant beaucoup d'informations sur l'hindouisme, le bouddhisme et l'islam, et dans une certaine mesure le sikhisme. J'ai grandi dans un quartier de Londres où il y a beaucoup de sikhs, de pakistanais, de bengalais, à l'est de Londres. Et j'ai été scolarisé dans cette culture. Mes voisins, c'était une famille pakistanaise. Je jouais toujours au cricket, au bout de la rue, dans le garage quand il était fermé, dans la cour.
Jamie,
si vous alliez à l'école dans les années 1970 en Angleterre, il y avait beaucoup d'Indiens à l'école. Cela fait partie de notre ADN, en quelque sorte.
Damon,
mon père, ça peut sembler être une phrase toute faite, mais c'est vrai. Mon père m'a fait découvrir Ravi Shankar avant les Beatles. Mais oui, tout à fait. Parce que mon père, il aimait beaucoup cette musique. Et mes parents étaient ouverts à beaucoup de choses. Et pour moi, les images de tous ces dieux indiens, c'était fascinant quand j'étais gosse. Ce sont des histoires et des images incroyables. Donc tous ceux qui ne sont jamais allés en Inde devraient découvrir ce pays. Il
n'y
a même pas besoin d'y aller. Tu peux passer 20 ans à étudier les livres, la philosophie, la cuisine, apprendre à cuisiner vous-même, Et puis là, tu peux y aller. Tu seras capable de mieux assimiler tout cela parce que c'est tellement riche. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que l'essence de tout ça, c'est l'importance pour nous d'avoir une éducation multiculturelle, de grande envergure aussi, qui permette aux enfants d'avoir au moins une chance de comprendre les autres cultures.
Jamie,
l'exemple, c'est le disque que nous venons d'enregistrer. C'est des gens du monde entier. Et les avantages de collaborer et d'apprendre à connaître des gens du monde entier. Et on obtient quelque chose qui fonctionne vraiment. Et c'est seulement parce que nous avons fait cela avec des gens du monde entier que nous avons inclus. Oui, c'est quelque chose en quoi nous croyons et dont nous tirons profit. Et l'idée de ne passer du temps qu'avec des gens comme nous, c'est mon idée de l'enfer. Mais c'est aussi très intéressant pour tout ce pays. Je veux inclure le Pakistan, le Bangladesh, le Sri Lanka, le Népal. C'est tout un monde. C'est la musique. Ils ont leur propre univers musical, c'est énorme. Et ils peuvent en quelque sorte exister complètement à l'intérieur de cet univers. Et tu sais, c'est pour tous ceux qui s'y aventurent, qui arrivent dans cette grande culture, pour en quelque sorte s'y immerger complètement, c'est fantastique. Ce qui est intéressant, c'est que tu prends ça comme une sorte d'application, un accessoire, un clip. C'est une question de culture. Donc cela doit venir du cœur.
Mais en fait, ça, la musique de Gorillaz, ça a toujours été ce que tu décris.
Oui.
Quand on parle de musique indienne, c'est très simpliste au fond, parce qu'il y a plusieurs types de musique indienne. Il y a par exemple la musique du Rajasthan, et puis il y en a d'autres.
C'est de ça que je parle. Et plus tu t'impliques, plus le monde devient kaléidoscopique et merveilleux. C'est vraiment ce que je veux dire. C'est notre truc, hein, c'est notre truc. C'est ce que nous faisons. C'est notre métier, à notre manière idiote. C'est une position merveilleuse que d'être en mesure de voyager à travers le monde. Et tu sais, nous n'allons pas en Inde en première classe. On voyage comme il faut.
Comme il faut, c'est-à-dire ?
On voyage dans un vrai train, avec de vrais gens. On enregistre dans un studio qui est le salon de quelqu'un. C'est vraiment un élément important.
Bien sûr, tu es allé dans différents endroits en Inde et j'ai vu que ça avait commencé par l'enregistrement d'un violoniste qui jouait d'un certain violon à une corde. C'était devant la porte du fort de Amber à Jaipur, dans le Rajasthan. C'est ça.
C'est pas un enregistrement en studio. C'est un enregistrement sur le terrain. Et ça a été le début de tout. J'ai fait un enregistrement d'un violoniste qui était là. C'était un morceau très très long qui était en fait un mélange de chants folkloriques qu'il avait mis bout à bout.
Mais c'était une rencontre purement fortuite.
C'était complètement fortuite. Et il y avait une partie que j'aimais beaucoup. Alors je l'ai en quelque sorte extraite et j'ai appris à la jouer, cette partie. Je crois que j'ai changé un peu l'harmonie. Oui, tu l'as beaucoup modifié. Et c'est devenu Mountain, le thème des montagnes. C'est un morceau de l'album, les gens ne l'ont pas encore entendu. Mais c'est comme le début d'un film. Ça te transporte dans la jungle indienne. Dès que tu l'écoutes, tu es en quelque sorte plongé dans les odeurs et dans la chaleur. On Cracker Island it was born, to the collective of the dawn. They were planting seeds at night, to grow a made up paradise, where the truth was auto-tuned. Every day, in the end, I had to play. The world is
Very Good Trip sur France Inter, Mishka Assayas.
Aprovechame hoy, que mañana me voy. Y no sé cuándo vuelvo, si en tus ojos me pierdo. Y aprovechame hoy, que mañana me voy. Y no sé cuándo vuelvo, si en tus ojos me pierdo. Perfecto, ojalá sea por siempre este momento, pero si no aprovecho.
Someone cry. nothing is.
Skinny little, I, but nobody knows what this.
Lonely Ape, c'était le nom de la chanson qu'on vient d'entendre, une chanson joyeuse extraite de l'album précédent de Gorillaz qui est sorti en 2023 et qui s'appelle Cracker Island. Et juste avant, vous avez entendu un autre titre qui s'appelle Tormentor, extrait du même album, dans lequel vous avez peut-être reconnu la voix du très très célèbre portoricain Bad Bunny. Il nous reste un peu de temps, celui d'écouter une très belle collaboration, toujours extraite du même album, Cracker Island. C'est une collaboration de Damon Albarn avec le musicien californien Beck et ça s'appelle Possession Island.
I stand and look out on the dark lake where the moon is rising. And the hydrophores are coming back in from the past in silence, where things they don't exist, and we're all in this together till the end.
Possession Island, c'était le dernier titre de Gorillaz que nous entendrons ce soir. Il figurait dans l'album Cracker Island, paru en 2023, et vous avez peut-être reconnu l'intervention de l'excellent musicien californien Beck, invité pour la circonstance. Demain, ce sera la suite de l'entretien avec Damon Albarn et Jamie Hewlett. Et alors, je vous l'annonce maintenant, ça sera exceptionnel parce qu'on pourra entendre deux titres de l'album chantés par Damon Albarn en solo. Il s'accompagnait il y a quelques jours pour la circonstance au piano à queue dans un studio de Radio France et nous l'avons bien sûr enregistré. Et ce sera donc dans l'émission de demain, ne ratez surtout pas ça. Alors il me reste un petit peu de temps, le temps de dire que j'ai dit une bêtise hier dans l'émission consacrée à la fusion entre la musique indienne classique et le rock, en disant que Ananda Shankar n'était pas lié à Ravi Shankar, mais si, il l'était, c'était son neveu. Ce que j'ignorais, heureusement qu'un auditeur m'a fait la remarque, je l'en remercie chaleureusement. Merci beaucoup à Sofiane Aktib et Guillaume Fichu, c'est eux qui ont réalisé et mis en onde l'émission. Merci également à Sébastien Lorieux pour le site internet, ainsi qu'à Romain Couturier à la discothèque de Radio France. Tout de suite après les informations, bien sûr, vous retrouverez Mehdi Maizi et son émission à la régulière. Ce soir, il réunira un plateau autour du film Scream 7, je crois.